La Cabane, la brasserie Les Deux Frères et Choc.ca sont fiers de te présenter la troisième édition de ton mini-festival hivernal Série Neige. Les 8, 15 et 22 février, viens te réchauffer le cœur directement sur le plancher du Divan Orange. Découvre-y des groupes comme B-Box, Étienne Mason et Renard Blanc. Les portes ouvrent à 19h30 pour cette série de concerts réconfortants. Pour plus d'informations, rends-toi sur la page Facebook de Série Neige.
Cannes Football Club, 100% foot, 100% débat, 100% Montréal.
Vous en avez assez de faire des photos moches? Écoutez Objectif Numérique où on vous donne des conseils, on teste des produits, on vous tient au courant des dernières nouvelles en matière de photographie et on vous suggère des sites ou des photographes à suivre. Tous les samedis, 13h.
Voyage au bout de la nuit, c'est ton émission d'ambiance nocturne sur le Nightlife Underground montréalais. Découvertes musicales, chroniques culturelles et idées de sortie pour divertir tes nuits urbaines. Voyage au bout de la nuit, c'est l'émission nocturne de Choc.ca.
Hey, j'ai un plan pour voir et écouter des shows gratuitement toutes les semaines. Le Studio, c'est le podcast live de Choc.ca. Toutes les semaines, retrouvez le meilleur de l'alternative musicale québécoise pour une session live et une entrevue. Vous pourrez suivre l'émission tous les mardis à 17h30 en vidéo direct sur le Facebook de Choc.ca et en audio sur le site internet de la station. Et si vous avez manqué l'émission, pas de problème, retrouvez Le Studio sur nos plateformes podcast et en vidéo sur YouTube. Musique.
Minutes de bonheur et de pas de danse, ça se passe tous les samedis à 14h sur Choc.ca avec votre émission Du Coup qui vous transporte sur la scène électro d'ici et d'ailleurs.
Vous écoutez Choc pour sortir des ondes. Podcast, musique, découverte. Sur choc.ca. La musique
Croyez-vous
au rendez-vous.
Que les médias ont une part de responsabilité dans votre défaite?
Pas du tout. Les médias ont toujours raison. Les médias ont toujours raison.
Bonsoir à toutes nos auditrices et à tous nos auditeurs. Vous écoutez La Photo Média sur les ondes de choc.ca en compagnie de votre animateur Émilien Roscanou. Ce soir à l'émission, nous avons un nouveau, Pawen Alexandre Morin. Nous avons ainsi aussi Tristan Lamour qui est des nôtres à la régie. Et nous avons également Frédéric Routier. Bonsoir à toutes et à tous.
Bonsoir.
Donc ce soir, on a un sujet très lourd de sens. On était en relâche la semaine dernière, mais vous le savez tous et toutes, il y a eu des événements très tragiques qui se sont passés à Québec la semaine dernière. Donc un homme est entré dans une mosquée et a fait feu sur des personnes qui priaient. Donc on va commencer avec toi Frédéric. Tu t'es penché un peu sur la couverture médiatique et les réactions politiques qui ont entouré cette fusillade.
Oui, exactement. En fait, donc le 29 janvier dernier, les attentats dans la mosquée de Sainte-Foy qui ont eu lieu, un bilan de 6 morts et plusieurs autres blessés qui ont été en état critique plus ou moins grave. Évidemment, ça a suscité plusieurs types de réactions, comme à chaque fois qu'il y a des événements de ce genre-là. Moi, ce qui me trouble encore et toujours, c'est de voir à quel point il y a certaines personnes qui sont enclines à des réactions beaucoup plus d'exclusion que d'inclusion. Je m'explique. En fait, il me semble que moi, quand il y a quelque chose qui arrive comme ça, mon premier réflexe, ce serait comme de soutenir les gens, de panser les plaies, de, tu sais, qu'on serre les coudes, que ce soit une occasion pour qu'on soit là les uns pour les autres. Parce qu'on s'entend que c'est une blessure sociétale qui est commune et qui touche tous les Québécois et les Québécoises. Donc, moi, quand je vois qu'au contraire, plusieurs gens préfèrent s'approprier l'événement pour attiser la haine, le racisme, la stigmatisation, j'en passe là, il y a beaucoup de choses comme ça, ça me sidère.
Oui, puis on a vu sur les réseaux sociaux, il y a eu beaucoup de réactions très très positives, d'ouverture, de communion après cet événement-là, mais on a aussi eu des réactions très raciste et,
c'est ça,
et
c'est
des réactions haineuses.
C'est que c'est tout ou rien. Il y a vraiment, c'est très bipolaire comme réaction. Il y a comme pas vraiment de juste milieu. Puis moi, je me demande comment ça se fait que ça fait... C'est aussi les deux extrêmes. Quant à ça, personnellement, je suis pas toujours fan des politiciens, puis d'ailleurs, je leur casse souvent du sucre sur le dos. Par contre, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, j'ai trouvé que pour la grande majorité, ils ont bien réagi. Je parle principalement de Denis Coderre, Régis Labeaume, Justin Trudeau et Philippe Couillard, qui étaient présents à une conférence de presse suite à la fusillade, donc dans les à très court terme, puis ensuite aux funérailles de 3 des 6 victimes. Je trouve qu'ils ont été présents, mais discrets à la fois. Ils se sont mis en première ligne, tout en restant à leur place. C'est-à-dire qu'ils ont été là dès le début, ils se sont mis de l'avant, ils ont pris l'initiative, mais sont vraiment restés à leur place. Je trouve qu'ils ont bien réagi.
En même temps, quand il y a des événements tragiques comme ça, si un des politiciens avait tenté, par exemple, d'instrumentaliser cette tragédie-là à des fins politiques, ça aurait pas pu passer, je pense, dans l'opinion publique. Donc, ils ont bien réagi, mais en même temps, le coup politique associé à une autre réaction que celle-là aurait été beaucoup trop grand, je pense.
Exactement. En tout cas, moi, j'ai été assez satisfaite de leur réaction pour une fois. Donc, quand ils font des bons coups, moi, je pense que c'est quand même important de le souligner.
Oui, quand ça arrive.
Ouais. Fait que je trouve qu'ils ont bien géré la situation. Puis, ils ont adressé des beaux messages à la population qui étaient quand même empreints d'espoir puis de tout ça. Je vous en donne des exemples parce que vraiment, je trouve que c'est à saluer. Entre autres, Régis Labeaume qui a dit « Aucun être humain ne devrait payer de sa vie par le fait de sa race, de sa couleur, de son orientation sexuelle, de sa croyance religieuse. » Denis Coderre, quant à lui, demande aux Montréalais de rester calme et de démontrer comme il se doit notre soif de tolérance et de respect envers tous. Alors, moi, j'étais bien satisfaite avec ça. Et puis, comme tu disais, Emilien, de l'autre côté, il y a Djemila Benhabib. Dans un long message qu'elle a publié en statut Facebook samedi dernier, elle, au contraire, accuse ces mêmes politiciens-là d'avoir très mal réagi, selon elle.
Oui, on sait que Djemila Benhabib a des opinions très, très marquées, surtout
très
quand
tranchées.
Il s'agit de l'islam. Là, on le sait, c'est une polémiste, auteure, qui a d'ailleurs écrit un livre qui s'appelle « Ma vie à contre-Coran mm-hmm. ». Mm-hmm. Donc, très, très engagée, très, très anti-religion, là, si on peut le dire.
Livre que j'ai essayé de lire, d'ailleurs, et qui, au bout de 2 chapitres, j'ai pas été capable de continuer pour diverses raisons, en tout cas. Je vais citer juste une partie de ce long message Facebook-là. « Je me serais attendue à ce que ces rencontres avec les religieux musulmans soient aussi une occasion pour nos politiciens de leur expliquer le sens de la démocratie. Mais non, c'était trop leur demander. L'occasion était trop belle pour eux de comptabiliser des votes, caresser dans le sens du poil, et faire des promesses, toujours des promesses, aussi insensées les unes que les autres. Nous avons assisté à un rare moment d'islamisation de la démocratie en direct. »
C'est un peu exagéré quand même, on s'entend là?
C'est Djemila Benhabib. Donc, en gros, ce qu'elle dit là, c'est que ces politiciens-là auraient dû en profiter pour faire la morale au lieu d'offrir du soutien à la communauté.
Ouais.
C'est moi où ça détonne, là. Je veux dire, c'est comme pas le moment. Tu sais, même en admettant qu'il y aurait une morale à faire à quelqu'un dans cette histoire-là, est-ce que c'est vraiment le moment de le faire, là, à court terme, là? À quelques jours à peine après la tuerie, les victimes sont à peine enterrées. Je veux dire, c'est comme un peu... c'est le genre de réaction que je disais qui me sidère un peu tout à l'heure. Oui. Ils sont un peu intenses, puis oui. C'est pas le moment.
T'sais. C'est ça. Puis quand il y a des événements comme ça... Ce qui est important, c'est d'abord de serrer les coudes. Oui, il y a des constats à faire. Oui, on peut se poser des questions sur les implications politiques, éventuellement, de ce genre d'acte, mais pas au lendemain de la tuerie. L'heure est au recueillement, l'heure est à la prise de conscience.
C'est exactement ça, chaque chose en son temps, parce que oui, effectivement, je suis d'accord qu'il y a clairement un dialogue à entamer à ce sujet-là. Je pense que les accommodements raisonnables, ces choses comme ça, vont revenir un peu à l'ordre du jour. Mais le lendemain, là, comme ça, là, à brûle pour point, les victimes à peine enterrées, je suis pas certaine. Je pense que c'est plus contre-productif qu'autre chose.
Oui, puis il y a quelqu'un qui a même répondu là, à Madame Benhabib.
Exactement. Donc, c'est Saoud Maherzi, un chroniqueur au Huffington Post, qui a un texte qui est excellent. D'ailleurs, on pourrait le mettre après sur la page de la Photomédia si ça vous intéresse, parce qu'il est vraiment très bon. C'est très bien formulé. C'est à point, selon moi. Donc, je vous en donne un extrait. Plus haut dans son texte, elle s'insurgeait contre l'infantilisation des musulmans opérée selon elle par Radio-Canada, mais voilà qu'elle souhaite qu'on leur explique le sens de la démocratie. Les musulmans seraient donc partout des marmots qui, comme l'enfant têtant sa mère, doivent se nourrir des enseignements tantôt de Radio-Canada, tantôt de Madame Benhabib. Donc, il soulève le paradoxe un peu du discours de Madame Benhabib en disant, d'un côté, elle dit, il aurait fallu que vous utilisiez cette occasion-là pour leur faire la morale et leur expliquer c'est quoi la démocratie parce que c'est des épais, ils savent pas c'est quoi. Puis après ça, elle critique la couverture de Radio-Canada en disant qu'ils ont infantilisé les musulmans. Donc, il y a un premier paradoxe. Il y a un deuxième paradoxe aussi qui est dans son discours, qui est d'un côté, elle appelle à la cohésion de tous les Québécois et Québécoises, peu importe l'ethnie, l'origine, etc., etc. Pour elle, c'est important. Et de l'autre, elle dit qu'il faut taper sur les doigts d'une communauté. Donc, en leur faisant la morale après des événements comme ça. Donc, il y a plein de paradoxes qu'on peut soulever comme ça. J'en soulève que deux, là. C'est ça qui me dérange un peu dans ce discours-là.
Et faire la morale à une communauté qui vient d'être touchée par un attentat, je veux dire...
Exactement.
C'est quand même assez sidérant.
Donc, la question que je pose ici, maintenant, c'est comment les médias vont jouer leur pion dans la suite sur l'échiquier, là, dans la suite des choses qui vont s'en venir. Est-ce qu'ils vont traduire et représenter la solidarité qui existe au sein de la société québécoise, parce qu'il y en a, ou vont-ils plutôt donner une visibilité importante et accrue aux messages haineux que certains propagent? Parce qu'on sait qu'il y a les deux. Comme on l'a dit, il y a vraiment les deux pôles.
Oui.
Les médias là-dedans, ils vont privilégier quoi? Quand ils vont discriminer, qu'est-ce qu'ils vont démontrer le plus? C'est quoi l'image qu'ils vont faire du peuple québécois? Est-ce qu'ils vont faire une image positive ou négative? Il y a Eve Torres, qui est coordonnatrice de La Voix des femmes, qui a passé à l'émission Gravel le matin, qui a dit quelque chose aussi que j'ai trouvé très intéressant sur cette couverture médiatique-là et qui appelle, dans le fond, à une couverture médiatique qui encouragerait, dans le fond, la solidarité. Elle dit « C'est ce reflet-là de cette solidarité populaire qui doit s'entendre et se voir par les actions des médias et des politiciens. » Donc moi, j'ai hâte de voir cette couverture médiatique-là qui s'en vient au sujet des problématiques puis des débats qui vont suivre, parce qu'il va y en avoir, c'est certain, comme les accommodements raisonnables qui vont réapparaître à l'heure du jour. Est-ce que les médias vont devenir un outil favorable à la cohésion sociale ou plutôt une source de division sociale? Moi, c'est ça que je me demande, puis je vais m'attarder un peu à regarder ça dans les prochains jours. Les choix des médias, ils vont devoir en faire. Pour ne citer qu'un exemple de ces choix-là, il y a certains journaux qui ont décidé il n'y a pas longtemps d'arrêter de publier les photos des acteurs des actes terroristes dans le but, je cite, « d'éviter d'éventuels effets de glorification posthume ou ne pas mettre à même niveau victimes et terrorisme ». Donc, c'est ça. Moi, j'ai hâte de voir ça, puis je vais voir comment les médias, s'ils vont nous aider en cohésion sociale ou s'ils vont nous diviser, parce que je pense qu'ils peuvent faire autant un que l'autre.
C'est une belle réflexion, puis on va voir comment ça va se traduire dans les prochaines semaines. Merci beaucoup, Frédéric. Donc maintenant, on va se laisser quelques petites minutes en chanson avec « Brise-glace » de Lydia Kepinski.
Et si t'avais vu Pygmalion. J'avais des hommes statufiés plein mon salon.
C'était Brise-glace de Lydia Kepinski, une chanson qui est très à point dans un froid hivernal qu'on connaît aujourd'hui. Moins 18, là, ça vous glace les os. Et puis le sujet aussi de l'heure nous glace un peu les os, le sujet de la malheureuse tuerie, l'attentat terroriste dans une mosquée de Québec. Comme deuxième chroniqueur, nous avons Pawen Alexandre Morin. Donc Pawen, toi tu t'es penché sur la question des vigiles de solidarité qui sont venus suite à cette tuerie.
Mais oui, effectivement, vous savez, suite aux attentats de Québec, plusieurs vigiles ont été organisés à travers le Québec. Et face à ces rassemblements, mais moi, je me suis questionné vraiment sur le rôle que nous prenions en tant que participants là, à celle-ci. Pour ce faire, ben, j'ai bien évidemment participé à une vigile là, qui s'est déroulée à Montréal lors du 30 janvier dernier sous le nom de Vigile de solidarité avec les musulmans et musulmanes du Québec. Le hashtag de l'événement était Salam Québec. L'idée est provenue d'une initiative citoyenne qui a permis de rassembler des milliers de personnes à la gare de Jean Talon, qui est juste à la sortie finalement du métro Parc. D'ailleurs, est-ce que vous y étiez?
J'y étais pas. Personnellement, j'avais un cours d'italien, mais ouais, je sais pas.
Malheureusement, j'aurais aimé ça.
J'ai ma famille qui était allée. Tristan, toi, est-ce que t'étais allé?
Oui, j'y étais. Effectivement, j'ai rencontré des membres de ta famille.
Le monde est petit.
Mais c'est ça, en fait, moi, quand j'ai vu passer l'événement sur mon Facebook, ça m'a amené à réfléchir, puis en fait, à me poser la question suivante. Pourquoi faisons-nous des vigiles de solidarité après des attentats? Hein, il y en a eu une qui a été organisée près du consulat de France lors de l'attaque au Bataclan. On est sorti également avec nos chandelles dans le quartier gay lors de la fusillade à Orlando. Et face à ces rassemblements, mais trois éléments de réflexion me sont venus en tête. Tout d'abord, ben, j'ai essayé d'avoir un regard critique là, sur la couverture médiatique. Ainsi, je me suis questionné sur la pertinence de ces rassemblements. Et là, je m'explique. Je me suis demandé si ça ne participait pas finalement à ce fameux storytelling. Cette idée qu'il faut que les médias nous racontent des histoires et qu'il faut en quelque sorte formater l'actualité pour la rendre intéressante. On sait par exemple là, que certains médias, ben, ils vont couvrir les manifestations avec la même trame narrative. Hein. On va s'intéresser à combien de personnes étaient présentes, on va poser la question est-ce qu'il y a eu du grabuge, on va interroger la police à savoir s'il y a eu des interventions. Donc le fait de participer à des vigiles de solidarité, est-ce que ça ne fait pas partie finalement de cette trame narrative? Hein? Durant l'attentat, ben, les médias, ben, ils vont tenter de couvrir cette chasse à l'homme. Le lendemain, ben, on interroge les familles des victimes. Par la suite, ben, on couvre la vigile de solidarité durant laquelle, ben, nous sommes tous en deuil. Et puis finalement, ben, le lendemain, ben, on passe à un autre appel. Certains, en fait, seront pas vraiment d'accord avec cette conclusion plutôt simpliste, j'en conviens. D'ailleurs, lors de la vigile, ben, j'ai interrogé plusieurs personnes à savoir pourquoi ils étaient venus, hein, et plusieurs m'ont répondu qu'ils désiraient être présents pour envoyer un message clair. « Nous sommes présents pour démontrer notre solidarité avec des familles », m'a répondu une dame. Un homme, quant à lui, m'a dit que lui était là pour dénoncer le racisme systémique. Donc, une vigile, c'est quand même un moment où nous avons la possibilité de faire passer des revendications.
Oui, puis vous pourrez aussi aller voir sur le site de choc.ca, il y avait des membres là, de la radio qui sont allés faire un petit vox pop là, durant la vigile de solidarité pour interroger les gens et puis avoir tenter un peu le pouls là, de ce moment de recueillement.
La deuxième réflexion que je voulais en fait vous partager aujourd'hui, c'est le fait que quand je suis arrivé à la vigile de solidarité, ben une personne m'a demandé de la prendre en photo avec sa chandelle. Aucun problème, j'ai décidé de le faire. Mais là, au même moment où j'allais le prendre en photo, d'autres personnes m'ont demandé de les prendre eux aussi en photo. Puis ça, ce réflexe-là d'être dans un événement, de se prendre en photo, ben ça m'a étonné puis ça m'a choqué un peu. Pourquoi?
Regardez, je suis là.
Mais oui, effectivement.
Ouais, c'est ça.
Pourquoi devons-nous faire une focalisation sur soi à outrance, hein? Et sommes-nous obligés de médiatiser l'ensemble de nos rapports sociaux?
C'est une bonne question.
En tout cas, le seul côté positif que je me dis de ce phénomène-là de mise en valeur de soi, mais c'est certainement de publiciser, en fait, la vigile de solidarité dans les réseaux sociaux. Ainsi, ben, on peut penser qu'une certaine tranche de personnes qui sont restées chez eux, qui se sont pas senties vraiment concernées par l'événement, mais ils ont été un peu sensibilisées de manière indirecte. C'est-à-dire, ben, qui auront vu apparaître dans leur fil de nouvelles que leurs amis, ben, ils ont pris part finalement à cette vigile de solidarité-là.
Oui.
Ma troisième réflexion, ben, concerne finalement un certain opportunisme qui a été souligné peut-être avec ma collègue, donc qui peut avoir finalement dans ces événements, on le sait, parce que c'est une tribune de ce genre qui peut être monopolisée par les politiciens qui sont en quête de capital politique, voire d'un certain capital de sympathie.
Oui.
Heureusement, à Montréal, les organisateurs étaient clairs, la tribune était réservée à la société civile, malgré la présence de plusieurs politiciens. Et ça, ça a permis de donner une tribune à des gens qui arrivent finalement très peu à se faire entendre dans la sphère publique. Puis ça, j'ai trouvé ça fort intéressant.
Surtout quand on pense que c'était une minorité qui était touchée, là, justement, ben, cette minorité-là n'a pas nécessairement beaucoup d'espace, beaucoup de place dans l'espace public, justement. Donc ça, ce moment de recueillement-là, ça a aussi pu les aider à se faufiler un petit chemin puis à occuper un peu l'espace public.
Puis finalement, c'est ça, face à ce constat-là, ça m'a amené aussi à réfléchir aussi au fait que, ben, dans le fond, une vigile, c'est aussi un moment où la société civile, elle occupe l'espace public. Hein, oui. Ce concept que si cher aux yeux d'Habermas. Hein, parce qu'une vigile, ben, c'est un temps que la collectivité prend pour parler, échanger, discuter et réfléchir sur des enjeux en commun. Donc, en conclusion, pour moi, ben, une vigile, c'est un moment pour se rassembler. Et se rassembler, ben, c'est briser l'isolement, hein. C'est une possibilité pour nous, en tant qu'individus, de dénoncer en groupe quelque chose qui nous choque.
Oui, puis c'est en groupe qu'on peut frapper l'imaginaire. Les photos étaient assez incroyables de voir toute la mobilisation de la population en si grand nombre pour dénoncer quelque chose d'aussi affreux. C'était beau à voir.
Fait que si jamais on vous pose la question pour ou contre les vigiles de solidarité, moi je répondrai au final, participer à une vigile, c'est un peu comme le bénévolat. Hein? Est-ce qu'on le fait pour se donner bonne conscience? Est-ce qu'on se le fait pour le paraître de la chose? On le fait vraiment pour la bonne cause? Au final, posez-vous donc la question. Est-ce que je participe à un exercice démocratique ou à un exercice narcissique? La réponse, ben, elle vous appartient en fait.
C'est ça. Donc, est-ce que je me prends en photo à la vigile, avec une chandelle pour sensibiliser les gens autour de moi, ou je le fais pour avoir des likes sur Facebook. Très bonne réflexion. Merci beaucoup, Pawen. Bon, il nous reste quelques minutes. Vous écoutez toujours la Photomédia sur les ondes de choc.ca. Tristan Lamour est avec nous. Vous vous en souvenez peut-être. Il avait été présent avec nous dans la toute première saison de la Photomédia. Il est de retour parmi nous. Donc, Tristan, toi qui t'intéresses dans ton champ d'études à l'extrême droite, tu voulais nous faire part, dans le fond, d'une espèce de problème qui existe autour du terme de loup solitaire.
Oui, exactement. Bonsoir tout le monde. Je vérifie le niveau du micro. Effectivement, c'est un terme qui a beaucoup fait jaser. Le terme de loup solitaire, il est souvent employé quand un individu solitaire avec, semble-t-il, pas de lien visible avec des organisations ou des groupes d'action ou des groupes terroristes, passe à l'acte. En fait, ce terme-là, il a été opposé un petit peu à celui de terroristes. On disait Alexandre Bissonnette, qui a commis visiblement, en tout cas, qui est le principal suspect dans la tuerie de Sainte-Foy, n'est pas un loup solitaire, c'est un terroriste, il faut dire les mots. Mais le terme de loup solitaire, je pense que beaucoup de médias, la plupart en fait, ont pas vraiment fait leur devoir, ont pas fait de recherche sur le sujet. À l'inverse, je dirais aujourd'hui que c'est un terme qui s'applique très très bien au cas de la tuerie de Québec. En fait, le terme de loup solitaire, c'est plus qu'un terme, c'est un concept qui a été développé par des militants suprémacistes blancs aux États-Unis dans les années 80.
Okay.
Et c'est une stratégie. C'est un concept, une stratégie. Ça veut dire que c'est une stratégie qui permet de faire des actes sans chaîne de commandement. Ça veut dire qu'il y a une idéologie, l'idéologie suprémaciste, néo-nazie, raciste, et des individus qui peuvent se nourrir d'informations avec notamment un nouvel accès illimité à l'information, les réseaux sociaux, Internet, tout ça. Internet arrive un peu après les années 80, mais oui, on a déjà cette idée-là.
Donc ça collerait très bien avec ce qui s'est passé, justement, parce que cet acte-là était motivé par une idéologie raciste de l'extrême droite. Quoi.
Exactement. En fait, un loup solitaire, la personne d'Alexandre Bissonnette est un loup solitaire. Ça veut dire que c'est un suprémaciste blanc, c'est une personne raciste qui adhère à une idéologie et sans appartenir à une organisation, commet une attaque et il reçoit d'ailleurs le soutien de sa communauté de suprémacistes blancs, preuve que c'était bien un loup solitaire. En fait, loup solitaire signifie terroriste, donc je pense pas que ce soit un terme à galvauder. C'est un concept qui représente bien les actes qui ont été menés. Et une petite réflexion pour terminer cette critique du reproche de l'utilisation du terme de loup solitaire, c'est que on a un groupe, il existe aujourd'hui un groupe politique classé à l'extrême droite au Québec qui s'appelle la Meute. Et une meute, oui. Qu'est-ce que c'est? C'est un amalgame de loup solitaire.
Oui, ça fait froid dans le dos, cette réflexion. D'ailleurs, il y avait juste un petit dernier point qu'on n'a pas tant le temps d'aborder, mais justement, la psychologisation aussi qu'on fait de ces tueurs-là, on essaie de trouver des espèces de raisons psychologiques ou psychiatriques à leurs actes. On dit souvent, ah, mais ça doit être un fou, ça doit être un fou qui passe à l'acte, qui tue des gens, mais on le remarque dans beaucoup d'actes de cette nature-là, que ce soit à Polytechnique ou que ce soit avec cet homme-là qui a tiré sur des musulmans qui priaient, c'était pas des fous. Ça faisait partie d'une démarche de radicalisation d'extrême droite, oui, mais qui s'étale sur un laps de temps défini, puis qui c'était organisé dans leur tête. C'est pas des fous, c'est des extrémistes.
Et puis on peut penser à plein d'autres cas, Maxime Brunnery en France qui avait tenté d'assassiner le président Chirac à l'époque, au début des années 2000, oui. Breivik en Norvège.
Et oui, ça aussi.
Les attentats d'Oklahoma City dans les années 80-90, c'est exactement cette démarche-là.
Récemment, Bain avec Pauline Marois qui a été déclarée coupable aussi, qui a été déclarée sain d'esprit, donc on a beaucoup tenté de le faire passer pour fou, alors que finalement, il ne l'était pas. C'est malheureusement tout le temps dont on disposait. Merci encore à Pawen Alexandre Morin, Frédéric Routier et Tristan Lamour. Merci d'avoir été à l'émission. Je suis Émilien Roscanou, vous écoutez La Faute aux médias sur les ondes de choc.ca et on se laisse en chanson avec BBITC ou BBITC de Ken Lo. Money, baby, dans le club. Dans une bédelle, la basse est fucking fort. Fenez mes sédans, ça qu'a fait, c'est ce fond. Demande à une voyante ou une biologue. Ben, les années deep dans le buzz. Mais encore pis surtout de la bonne oxygène dans la gorge. Fout un top quand j'jogue. Le décor est gang, c'est la nature et dog. Si tu sens pas du tout, la vie doit être dog. J'te comprends pas, j'ai sens que la job finisse. Pour aller bébé, néo, pense au gym. On gaspille du temps sur le end of the term. And it's not une pause à tout ce term. And it's got qui a jacqué des slums, Louis Stagelet. Moi pis mon dossier fixe qu'elle est maquillée. La loi sur les impôts, valait la peine de l'être. Mes types pis ma douce, moi c'est féminin. Garde-moi ce poche à longueur dans les coups. J'aurais plus rien à manger au père. Mais tout encore l'air de déjeuner. La mode est au verbe. Et pas que je vous regarde au show. Dans ce béat sauvage de quelqu'un faut chaud. J'pense à ça, garde à mon char. Yo, baby dans le club, baby in the club. Si tu penses pas que club, check la baby spawns bonne. Y'a une couple de babysitters qui sont stressés dans le bas. Savent pas, mais c'est quoi ce qui se passe de ce temps-là? Tu penses pas? Faut que Marty down show. Baby, baby in the club, pis c'est parti à l'école d'un courant. Tu sautes de ça, qui coule, qui plaît pas. Google sur Wikipédia, tombé sur un ordre du trait là. Bout de la chine, kick up. Tombé dans ce tas bagage de plein de gars. Que toi, tu connais même pas, mais baby in the club, elle connaît ses patins. Ne laisse à niaise pas.